France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Que nous dit le misanthrope ? Aujourd'hui, pour en parler, je recevrai Célimène et Alceste, alias Mélodie Richard et Eric Almosnino. Ils sont sur la scène de l'Athénée à Paris en ce moment. Je les recevrai à partir de 13h. Mais tout de suite, on critique. Aujourd'hui, la littérature étrangère au menu, avec La ligne de Aaron Appelfeld, qui vient d'être traduit en France plus de 30 ans après sa parution en Israël, et Uva Spina, premier roman de l'italienne Monica Accitto. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Midis de Culture et bonjour aux critiques du jour, Marie Sorbière, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Pierre Benetti, co-directeur éditorial du journal En Attendant Nado. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Aaron Appelfeld s'est éteint en 2018, mais nous pouvons encore ici en France découvrir de nouvelles facettes de son œuvre. Les éditions de l'Olivier ont confié à l'autrice Valérie Zenati la traduction de La ligne, roman écrit en hébreu, publié en 91 en Israël. Auteur d'une quarantaine de livres, Appelfeld confiait volontiers que l'écriture l'avait arraché aux profondeurs du désespoir. Lui qui était né juif en 1932 en Roumanie et qui à 10 ans, après s'être évadé d'un camp nazi, a dû vivre seul pendant 3 ans. Il traversera l'Europe aux côtés de l'armée rouge après 1945 avant d'embarquer pour Israël. Cette errance, on la retrouve dans ce nouveau livre. On y suit Erwin, victime lui aussi du régime nazi, qui choisit de vivre dans un train, sur une ligne Italie-Autriche, dans un éternel recommencement, à la recherche, dit-il, du SS qui a tué ses parents. On commence avec un avis rapide, Pierre Benetti.
Moi j'ai été très très touché par ce court roman ferroviaire, j'ai envie de dire très très attachant par la singularité très profonde de son narrateur en fait avant tout. Il y a une étrangeté douce et une sorte d'âpreté, vous parliez du misanthrope de Molière, vous allez en parler un peu plus tard. Là c'est une sorte de misanthrope mais bouleversée par l'histoire et qui essaye de trouver un abri toujours, partout, le long de cette ligne et trouver un lieu fixe. En ce monde, je trouve que c'est bien de le lire, même si ça pose des questions de lire un livre 30 ans après sa apparition, c'est toujours un questionnement.
Marie Sorbier.
Moi, je trouve que c'est un très beau roman en creux, tout à fait caractéristique de l'œuvre d'Appelfeld. Il poursuit d'ailleurs ici sa grande saga sur la solitude du peuple juif. Il faut le dire, magnifiquement traduit par Valérie Zenati, qui le traduit au long cours. Donc, c'est vraiment un couple d'écriture, et ça, c'est très beau à voir. Je dis en creux parce que c'est un roman qui creuse toujours les mêmes obsessions de l'auteur, à savoir comment être juif après-guerre et comment ne pas perdre la trace des souvenirs de son peuple. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance et de délicatesse dans ces pages-là, alors qu'en fait, ce qu'il évoque, c'est l'horreur absolue.
On va écouter d'abord un extrait de La ligne d'Aaron Appelfeld, extrait lu par Nicolas Berger.
Depuis la fin de la guerre, je suis sur cette ligne, comme on dit. Longue, sinueuse, courant de Naples au Grand Nord, une route de trains régionaux ou électriques, de taxis et de carrioles. Les saisons défilent devant mes yeux comme dans un songe. J'ai intégré ce chemin dans mon corps. Je connais à présent chaque pension et chaque auberge, chaque restaurant et chaque cafétéria, et toutes les variétés de véhicules qui peuvent vous conduire dans les coins les plus reculés. Je peux à présent m'installer dans une cafétéria et imaginer, par exemple, ce qui se passe dans la lointaine Hansen, comment la neige y tombe et en recouvre avec douceur les ruelles. Et dans le café Anton, qui sert dès les premières heures du jour des brioches fraîchement sorties du four, du café et de la confiture de cerise. C'est précisément dans ces lieux oubliés des dieux que surgissent les menus plaisirs qui font frémir ma mémoire plusieurs jours durant. J'ai appris ceci. Aussi élevées soient-elles, les pensées sont destinées à disparaître comme le vent. Alors que le goût d'une brioche chaude, d'une confiture maison, pour ne pas dire d'une cigarette, vous imprègne longtemps. Il me suffit parfois de faire apparaître devant mes yeux le café Anton pour chasser de mon cerveau une cohorte de mauvaises pensées. Je chéris les petits lieux reculés. Je me tiens à distance des grandes villes, comme de la peste. Elles déversent sur moi un sentiment de terreur et, pire encore, de la bile noire.
La ligne de Aaron Appelfeld aux éditions de l'Olivier. Pierre Benetti, vous parliez d'une étrangeté douce.
Oui, parce que c'est un narrateur qui nous qui nous, comment dire, moi il m'a beaucoup troublé dans sa manière de se rapporter à sa propre histoire, parce que ce qui est le, à mon sens, le plus fort dans le texte, c'est tout ce qui nous fait entrer dans son intériorité à travers ses rencontres, alors à la fois hasardeuses et puis en même temps complètement répétitives, puisque c'est un narrateur qui refait toujours le même chaque année. Donc chaque année, il repart pour un voyage d'un an à peu près. Donc il passe entièrement sa vie depuis de nombreuses années dans ce train en Europe centrale depuis l'Italie. Et à mon sens, il y a aussi une forme de brutalité. Par exemple, le moment quasiment final où il finit, je vais pas spoiler, mais il finit par retrouver l'assassin, le meurtrier nazi de ses parents. Et donc, moi, j'ai été une étrangeté douce au sens où on est pris, j'ai été très pris d'une tendresse pour lui, et en même temps, sa manière de raconter est très souvent abrupte, hachée. On s'attend pas forcément à des. Il y a une forme de violence en lui, mais violence qui ne s'exprime jamais directement. Et là où le trouble augmente, c'est qu'elle ne s'exprime pas non plus devant les anciens nazis qu'il rencontre au long de son voyage. À part une fois, on pourra le raconter, il y a une scène assez incroyable où il s'en prend à un ancien nazi dans un train. C'est un drôle de sentiment qui pour moi n'est pas vraiment le même que dans d'autres textes d'Appelfeld. Peut-être il faudrait voir ce qu'il écrivait, parce que c'est un texte de 91, hein. Donc c'est avant Histoire d'une vie qui l'a rendu célèbre, notamment en France. Ce livre m'a laissé une empreinte très bizarre. Ça fait plusieurs jours que je l'ai lu, et cette étrangeté douce, ouais, et en même temps cette brutalité continue de me hanter, quoi.
Marie Sorbier.
Oui, ce que j'ai trouvé particulièrement fort dans ce livre, c'est qu'en fait rien n'est décrit, rien n'est dit. Ça pourrait être une histoire un peu, alors peut-être pas banale, parce que quelqu'un qui cherche le meurtrier de ses parents peut peut-être pas dire que c'est banal, mais il y a un homme, qui passe sa vie dans les trains, qui s'arrête toujours dans les mêmes villes, toujours dans les mêmes hôtels, qui va rencontrer toujours les mêmes gens. Il y a presque quelque chose de l'anecdote, voilà, au départ du pitch du livre. Bon, et ça aurait pu s'arrêter là. Et d'ailleurs, on pourrait le lire uniquement à la surface, et ça pourrait être que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui refait toujours le même trajet en train parce qu'il a une quête et qui veut assouvir sa quête. Bien. Mais en fait, ce qui est toujours, moi je trouve, bouleversant dans l'écriture d'Appelfeld, c'est que tout ce qui doit être dit n'est pas écrit, c'est-à-dire que tout est dans l'infratexte, tout est en dessous.
En creux, comme vous
en
disiez.
En creux, voilà. Et en fait, ça affleure de façon très naturelle, c'est-à-dire je ne suis pas allée chercher un métatexte incroyable, hein. C'est pas une exégèse du tout, c'est qu'à force de le lire, ce qui n'est pas écrit ressort. Et ça, je trouve que c'est un art, pour le coup, de la littérature qui est incroyable.
Et d'ailleurs, même cette affaire de retrouver un ancien nazi, enfin c'est une figure de chasseur de nazis, hein, ce personnage, même cette affaire est globalement bâclée, c'est-à-dire que ça devient au fur et à mesure un petit peu un prétexte à voyager. C'est aussi un prétexte à une errance dont on ne sait jamais trop si Erwin la subit ou la poursuit avec volonté, c'est-à-dire qu'il est pris comme ça dans une sorte de... C'est un revenant. Il fait le chemin inverse de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire c'est un chemin qui repart sur les lieux, et en même temps c'est un errant, donc il y a une boucle, c'est la boucle circulaire, on dirait. Ouais, évidemment on peut pas s'empêcher de penser aux ferroviaires, dans le sens les trains de la déportation aussi, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose d'une temporalité très singulière. Je sais, il faudrait repartir sur de l'analyse de texte pour voir comment Appelfeld construit ça. Il y a un temps suspendu, qui est peut-être le temps du voyage. D'ailleurs, on le vit tous si on prend un train. Sauf que là, évidemment, en arrière, et ce n'est jamais dit, évidemment, moi, à mon sens, le livre pêche à certains moments où justement les choses sont explicitées. Tout ce qui est en rapport avec le passé, à mon sens, des parents qui étaient des juifs communistes, militants, désillusionnés par évidemment la suite des événements. À mon sens, c'est là le roman perd un petit peu de sa force.
Marie, vous disiez que c'est typique pour vous de l'écriture d'Appelfeld.
Oui, j'y retrouve moi tout ce que j'aime, c'est-à-dire cette écriture en creux. On pourrait dire d'Appelfeld que c'est un écrivain de la Shoah qui n'a jamais parlé de la Shoah, c'est-à-dire qu'en fait les mots ne sont pas prononcés. Mais on est toujours dans cette après-guerre, dans cette solitude du juif ou du peuple juif. Et là aussi, ce qui est très beau dans ce roman-là, mais qu'il a beaucoup traité par ailleurs, c'est sur la mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui fait trace quand la moitié, enfin les trois quarts, 90% de la population a été exterminée? Et donc, il fait de son narrateur, qui est quand même un peu son double, hein, s'appelle Erwin, c'est toujours un peu lui, mais pas lui. Enfin, c'est un espèce de double de l'auteur.
Et il fait du commerce d'objets, de culte juif, c'est ça.
Il est antiquaire, on pourrait dire, et en fait, il récupère dans tous ses voyages des objets de culte juif que lui donne
des archives,
ouais. des livres, enfin. Et donc il récupère tout ça et puis soit il les revend, soit il les disperse. Mais il y a quelque chose sur la mémoire qui est très beau parce que ce personnage, certes, il veut venger son peuple et ses parents, mais ce qu'il fait surtout, parce qu'en effet c'est un peu anecdotique cette histoire de vengeance. D'ailleurs la fin est complètement anecdotique, ça tombe à plat et c'est assez beau que la vengeance soit en fait quelque chose qui n'est pas de corps, enfin elle est pas majestueuse la vengeance, elle est un peu patraque quoi, elle tombe un peu comme ça. Alors que ce qui est très beau, c'est justement la trace et la mémoire, parce que ces objets vont non seulement prendre le poids de reliques parce qu'ils se sentent dépositaires d'objets qui ont disparu et lui font en fait rentrer en contact avec des gens, parce que c'est quand même ça aussi son problème, c'est que il essaie d'aller donc dans les mêmes endroits à chaque fois qu'il s'arrête dans les mêmes gares, on est dans des tout petits villages et bah les gens finissent par mourir parce qu'on imagine qu'il fait ce trajet depuis peut-être je sais pas 40 ans ou 50 ans, enfin très longtemps. Donc les gens qu'il a connus jeunes deviennent vieux et donc meurent. Donc il y a beaucoup de ces personnages qui meurent. Les autres partent tous en Israël, or lui reste en Europe. Donc il y a vraiment quelque chose d'un passé qui s'en va et lui tente, ce narrateur, maladroitement parfois, de le maintenir dans son petit trajet, dans son commerce d'antiquité et dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment de la nostalgie juive qui est écrite de façon magnifique. Enfin, moi, je trouve ça... C'est là-dedans où c'est bouleversant, en fait. C'est pas tellement dans cette histoire de nazis vengeance. Et de vengeance. Franchement, on s'en moque un peu. Enfin, c'est pas le sujet,
Si, quand même, il y a quelque chose qui, moi, m'a étonné. C'est la présence de ces anciens soldats qui festoient, qui font des commémorations pour rappeler leur vie au front, en sachant que ce qu'ils appellent, eux, le front, c'est l'extermination des Juifs.
La Shoah par balle, tout ça.
Voilà, et on parle pas des images qu'on a des camps, en soi, mais des grandes exécutions au cours de l'offensive de la Wehrmacht à l'Est. Et là, on est devant des scènes complètement stupéfiantes où ce narrateur ne peut s'empêcher d'écouter, de suivre un peu ce qui se passe. On ne sait pas exactement s'il est caché. Il joue un petit peu le détective. Enfin, il y a comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de rôle très film noir. On le voit avec quasiment un impère et un chapeau.
Mais qui joue tout seul avec lui-même.
Il joue tout seul, ouais. Voilà, exactement. Personne ne se rend compte du tout de ce qu'il est en train de faire. Donc lui, il cherche une trace. Et dans le même temps, on dirait qu'il retrouve aussi des sensations de l'enfance face à ces hommes cruels. Il a une expression assez forte pour parler du lieu. Hein. C'est pas un camp. Il parle d'un petit camp cruel qui est construit dans un hangar, des endroits comme ça. Donc c'est vraiment un rapport à l'extermination des Juifs d'Europe qui est par le côté. Et on se retrouve devant ces anciens nazis. On a parlé d'un roman il y a quelques semaines, moi, de Joseph Winkler. On est un peu dans cette ambiance-là, hein. Autriche, Europe centrale, où il y a une Europe nouvelle qui continue. On ne sait pas exactement quand le roman se passe, mais il y a une Europe nouvelle qui vient de naître sans les Juifs qui y vivaient, mais toujours avec ces anciens soldats SS qui organisent des commémorations de leur fait d'armes. Je trouve que vraiment, j'avais rarement lu un roman sur cette question.
Marie Sorbier.
Ce qui est très beau aussi, c'est qu'il cherche... le familier un peu partout, c'est-à-dire on l'a dit au départ, il a pas de lieu fixe, on sait pas où il habite ce personnage, visiblement nulle part, et donc c'est vraiment la figure du juif errant, il est là, il cherche de gare en gare, etc.
La chambre d'hôtel,
il essaie de lier avec les gens, et dans ce sens-là, moi ça m'a fait beaucoup penser à un autre livre qui pourtant n'a rien à voir sur le sujet, mais quand même est assez proche, d'Emmanuel Bove, qui s'appelait Mes Amis, et c'était aussi un roman d'après-guerre où un ancien soldat essayait d'être ami avec tout le monde, mais il pensait qu'il était ami avec la boulangère, et en fait pas du tout, la boulangère elle lui servait juste du pain. Vous voyez, c'est une espèce de relation à sens unique. Et parfois, on a un peu l'impression de ça. Il dit « Ah, je vais retrouver l'auberge de Madame Machin qui a une baignoire incroyable. » Il parle beaucoup de baignoire au milieu de la chambre. Et en fait, on s'aperçoit bien que, en effet, la dame peut l'accueillir et le reconnaît, mais pas plus. C'est pas son ami. Et donc, cette recherche de familiarité et cette recherche de toit et d'abri, bon, d'abord, c'est bouleversant et il l'écrit très bien parce qu'encore une fois, il n'y a pas de pathos. Hein. On est vraiment sur une écriture un peu claire, un peu limpide, comme ça. Et je voulais juste citer une phrase qu'avait dit Philippe Roth, qui avait fait une grande interview d'Applefed. Ils étaient amis. Voilà, et il avait dit « Appelfeld est l'auteur dépaysé d'une littérature dépaysée et il a fait de cette désorientation un sujet qui n'appartient qu'à lui ». Et je trouve que cette phrase, elle correspond parfaitement à ce livre qui est un livre, pourtant on suit une ligne de chemin de fer, mais on est complètement désorienté.
C'est d'ailleurs le titre du premier titre du roman, c'est « Le chemin de fer », c'est pas la ligne. Et d'ailleurs, ce geste de Valérie Zenati de traduire la ligne, ça ouvre plusieurs sens. Hein, le chemin de fer, d'une certaine manière, c'est un peu plus resserré. Là, lui, c'est un narrateur qui tient sa ligne aussi, moi je l'ai entendu comme ça, qui suit une trajectoire dont il ne sait pas trop jusqu'où ça va l'amener. Je rebondis sur la question des rencontres qu'il fait et des liens qu'il essaye de tisser. C'est un homme profondément seul, mais il va trouver aussi quand même une solidarité dans les anciens dans les réfugiés juifs qui sont revenus chez eux. En général, ce sont des personnes qui sont restées cachées, clandestines, et c'est lui-même un narrateur caché. Mmh. Et en même temps, qui se montre tout le temps. Enfin, c'est très très étonnant dans cette succession de très brefs chapitres, très concis. C'est un livre qui se lit de manière... on suit nous-mêmes, on se met à suivre ce chemin. Ça, c'est assez fort.
Et je voudrais bien qu'on revienne, Pierre Benedetti, sur ce que vous disiez au tout début, que voilà, c'est quand même étrange comme sensation et comme expérience de lire un livre qui a été écrit il y a 30 ans.
Ben oui, parce que entre-temps, Appelfeld est devenu Appelfeld, notamment grâce à toutes les traductions de Valérie Zenati. C'est en 2004, ça fait 20 ans maintenant qu'on a découvert surtout l'œuvre d'Appelfeld. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de lire ce livre-ci à l'aune, si on a lu les précédents, de livres, à mon sens, plus importants ou plus majeurs, même s'il est très touchant. C'est pas pour faire de la comparaison, mais... c'est troublant parce qu'on sent que c'est encore une époque 91 où il est en train de chercher sa patte, de chercher des motifs. Il y a des scènes plus ou moins réussies. Hein. C'est un livre assez composite, j'ai l'impression. Et donc, faudrait pas. Il y a toujours ce sentiment après qu'un grand écrivain disparaît, alors on trouve tous les livres extraordinaires. Alors que non, il y a un processus de création. Et là, on le voit hein, dans certaines tentatives. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a parfois un petit peu étonné. C'est la diffraction, la fragmentation de tous les personnages. Alors, il est très fort pour faire un portrait très vif en quelques traits. On est avec le personnage dans la scène, donc tous ces personnages qu'il rencontre au cours de son voyage. Et dans le même temps, on reste un peu sur sa fin. Enfin, moi, je suis resté sur ma fin parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus, d'avoir un peu plus d'épaisseur hein, à toutes ces personnes.
La ligne de Aaron Appelfeld aux éditions de l'Olivier, traduit de l'hébreu par Valérie Zenati.